France Inter. Alexandra Ben Saïd, Jérôme Cadet, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 25 octobre. Bonjour Christelle Rebière.
Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
À l'une de l'actualité ce matin, ils ont travaillé pour rien. Ils avaient bénéficié des TUC, les travaux d'utilité collective dans les années 80 et ils déchantent. Pas de cotisation retraite. Aucun trimestre comptabilisé. Aujourd'hui, ils se mobilisent. Les autres titres.
Quel mix énergétique pour une France propre demain. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, rendra public ses simulations ce matin. Emmanuel Macron, lui qui n'a jamais été ouvertement contre le nucléaire, est désormais tout contre. Dans ce journal, des soignants suspendus pour ne pas avoir été vaccinés. Dans certaines communes rurales, ça risque d'accentuer la désertification. Eux, ils désertent le métier de chauffeur routier. On manque de 40 000 à 50 000 conducteurs en ce moment. Et puis quand le patrimoine devient encombrant, une grosse pierre venue du néolithique perturbe le quotidien d'une commune. Au 21e siècle, nous irons à Féchin, dans le Nord, encombrés par un polissoir.
Les invité d'Inter ce matin. 7h50 avec vous, Alexandra Ben Saïd.
On reçoit un des grands patrons de la French Tech comme Xavier Niel ou Marc Simoncini, un des pionniers du numérique français il y a 20 ans. Il fondait le site venteprivée.com. Jacques-Antoine Grandjean sera en direct avec nous à 7h50.
Et à 8h20, nous serons ensemble pour le grand entretien de la matinale avec le député modem des Hauts-de-Seine et président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlange. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Vous souvenez-vous des TUC? Aujourd'hui, on appellerait ça des contrats aidés. Dans les années 80-90, les travaux d'utilité collective permettaient de fournir des petits boulots dans les écoles, les hôpitaux, les mairies. Et aujourd'hui, alors qu'une réforme des retraites se profile dans les prochains mois, les TUC de l'époque se révoltent, car ces emplois à mi-temps n'ont pas été comptabilisés dans le calcul des trimestres de retraite. 350 000 personnes sont concernées. Sur Facebook, plusieurs centaines se sont rassemblées dans un groupe baptisé les Oubliés de la retraite, et ils entendent bien faire valoir leurs droits, Laurence Méride.
Khadija a 19 ans quand en 86, l'ANPE, l'ancien Pôle emploi, lui propose de faire le ménage dans un lycée de Lyon.
Il nous disait, vous prenez ça, si vous prenez pas, on vous coupe le chômage.
Un travail d'utilité collective d'un an, le TUC, mais ce contrat aidé, très utilisé à l'époque, n'apparaît pas dans son relevé de carrière.
J'ai 54 ans, mais je dis, mais j'ai peur, je sais même pas comment je vais faire pour arriver à 65 ans. Franchement, là, j'ai les larmes aux yeux, parce que je suis fracassée partout. Qui nous aide, quoi, qui nous rende notre MS.
Les anciens TUC, qui exerçaient un véritable emploi, demandent à l'État de prendre en compte ces heures travaillées dans leur retraite, une revendication rejetée par le député La République En Marche, Bruno Quettel.
Les personnes concernées à l'époque avaient un statut de stagiaire pour lesquelles il n'y avait pas de cotisation retraite, ni patronale, ni salariée.
30 ans après la disparition de ce contrat aidé, le député de la majorité estime donc que ce n'est pas au gouvernement en place de payer ces cotisations. Depuis 2009, des parlementaires de tous bords interpellent régulièrement l'État et appellent à la solidarité nationale afin d'obtenir justice pour les anciens TUC.
Laurence Méride, comment se chauffer, rouler, téléphoner, produire sans aggraver encore le réchauffement climatique? À quelques jours de la COP26 à Glasgow, RTE, qui gère le réseau électrique français, doit dévoiler aujourd'hui ses scénarii pour l'avenir de la production de l'énergie dans l'Hexagone. Alors quelle sera la part du nucléaire, des éoliennes, du solaire? Comment Emmanuel Macron va-t-il pratiquer le « en même temps » Une chose est sûre, le chef de l'État s'est rallié peu à peu à l'atome et devrait même annoncer la construction de nouveaux EPR, Simon Le Baron.
Il avait commencé son mandat en confirmant la fermeture de Fessenheim et en nommant à l'écologie Nicolas Hulot.
La filière nucléaire, pardon de le dire, mais nous emmène dans une dérive.
Contrairement à son ex-ministre, Emmanuel Macron n'a jamais été anti-nucléaire, mais le président n'a fait que renforcer ces derniers mois son positionnement en faveur de l'énergie atomique. Sur le site Framatome du Creusot, en décembre 2020,
« Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. »
Ou lors de la présentation du plan France 2030, il y a 2 semaines,
« Pour produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique. Le parc installé de nucléaire. »
Et le président de vanter toutes ses qualités. Il est made in France, question de souveraineté, relativement peu cher, question de pouvoir d'achat, et il émet très peu de CO2, question de lutte contre le réchauffement climatique. En s'affichant en défenseur de la filière, mais pas partisan du tout nucléaire, Emmanuel Macron veut incarner, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, ce qu'il voit comme le camp de la raison, entre une droite anti-éolienne jugée caricaturale et des écologistes anti-nucléaires jugés irresponsables. responsable. Le chef de l'État cherche l'équilibre, mais penche de plus en plus du côté de l'atome. L'Élysée refuse d'ailleurs de réaffirmer l'objectif de réduction à 50% du nucléaire dans la production d'électricité en 2035.
Et quel que soit le mix énergétique choisi, il faudra produire au moins 35% d'électricité en plus en 2050 pour couvrir nos besoins.
On manque de bras et parfois de gros bras.
Oui, dans l'interminable liste des emplois non pourvus, outre le milieu du bâtiment ou de la restauration, figure celui du transport routier. Il manque 40 000 à 50 000 chauffeurs. Alors que l'activité est repartie à fond, les patrons s'inquiètent, Maxime Debs.
Pour ces camions, Noureddine Ziane cherche activement des volontaires.
Il se présente, le soir il part.
Encore plus avec cette reprise, les camions qui ne demandent qu'à partir, ce patron en Aquitaine cherche de 6 à 7 conducteurs pour sa PME et vante le métier comme il peut.
En l'espace de 20 ans, le métier qu'a connu mon père qui était conducteur routier dans les années 80, ça n'a plus rien à voir. Une cabine aujourd'hui, il y a maintenant des capteurs de détection d'endormissement. Les sièges qui sont sur coussin d'air, tout confort.
Et d'ajouter les horaires de plus en plus aménageables selon lui, estimons, lui répond Thierry Douin de la CFTC Transport, mais ça ne fait pas tout.
Comment attirer des jeunes dans cette profession? Ça a beau être un camion hyper moderne, hyper connecté pour faire jeunes et puis essayer de les attirer. Quand on s'arrête sur une aire d'autoroute, qu'on voit l'état des sanitaires, enfin, c'est plus possible.
Et d'insister surtout sur la rémunération.
S'il y a 400 000 conducteurs qui manquent en Europe, ce n'est pas une histoire de matériel ni de conditions de vie, de couchette dans la cabine. Les jeunes veulent bien travailler, mais dans des conditions où ils pourront en même temps vivre de leur salaire.
Une séance de négociation est prévue, dit-il le 10 novembre. Le temps presse dans une profession en danger, selon lui, avec une pyramide des âges avoisinant les 50 ans. Question, dans ce contexte, qu'adviendra-t-il dans 10 ans ?
Une bonne galère du lundi en région parisienne. L'autoroute A13 est toujours coupée ce matin et pour une durée indéterminée dans les deux sens entre Paris et le tunnel de Saint-Cloud. Elle fait suite à un vol de câble entraînant la perte d'équipement de sécurité dans un tunnel. Ils avaient jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Aujourd'hui, 15 000 soignants rétifs sont suspendus ou en passe de l'être. C'est un chiffre infinitésimal sur plus de 2 700 000 personnes, mais qui risque d'accentuer encore le phénomène de désert médical. Partons à Pleudien, sur Rance, entre Dinan et Saint-Malo. Dans cette commune de 4000 habitants, la future sanction de l'un des trois médecins généralistes va bouleverser le quotidien de 1500 patients. Solène Lehen.
Malgré les demandes du maire et de certains de ses patients, le docteur Françoise Vandine, médecin homéopathe, est ferme. Elle ne se fera pas vacciner contre le Covid.
Moi, en ce qui me concerne, pas question, je compte sur mon immunité et je veux qu'on respecte ma position.
Faute de temps, l'agence régionale de santé ne l'a pas encore suspendue mais entend bien appliquer la loi. Dès lors, les 1500 patients du docteur Vandine craignent de se retrouver sans médecin traitant.
On ne peut plus prendre de rendez-vous avec un autre médecin, ils refusent. Ils sont déjà très pris. On arrive dans des communes dans lesquelles les gens ne vont plus être soignés et on va encombrer les urgences à terme.
Il y a cette histoire de vaccin, de contexte du Covid, mais nous, c'est un problème qui est beaucoup plus profond et plus ancien. C'est qu'on voit les médecins disparaître les uns après les autres. Ces médecins de village, ces médecins de campagne, qui font largement plus que les heures de bureau, qui sont capables de se déplacer. C'est ça qu'on perd.
N'entrevoyant pas de solution, David Boixière, le maire de Pleudien, a envoyé un courrier à l'agence régionale de santé pour l'alerter sur la situation.
On est sur un bassin de population aujourd'hui d'un peu plus de 10 000 habitants qui se retrouvent avec seulement 3 médecins.
Des patients du docteur Vandine ont lancé une pétition pour qu'elle puisse continuer d'exercer. Pétition qui compte aujourd'hui 4 000 signatures, autant que le nombre d'habitants de la commune.
Reportage Solène Lehen, 5005 nouveaux cas de Covid ont été détectés ces dernières 24 heures dans notre pays. L'épidémie continue de remonter doucement. Les États-Unis, eux, ont décidé d'ouvrir enfin leurs frontières le 8 novembre prochain. Après 18 mois d'entre-soi, il y aura donc des touristes européens si ces derniers sont vaccinés et après avoir pratiqué un test PCR moins de 72 heures avant le départ. Mais l'aérien reprend son envol, Philippe Lefebvre.
Tant chez les tours opérateurs que dans les compagnies aériennes, on peut parler de soulagement. Car par exemple pour Air France KLM, les États-Unis représentaient avant la crise 40% des revenus générés par les vols long courriers du groupe. Et pour les prochains mois, Christian Vernet, le PDG de la compagnie, une compagnie aérienne française spécialisée dans les vols transatlantiques, se veut raisonnablement optimiste.
Dès l'annonce, il y a eu un effet de boost sur les ventes. Nos ventes ont augmenté à peu près de 300% sur le marché français. Mais il y a eu un effet aussi positif sur le marché américain, puisque même les ventes américaines à partir de ce moment-là, augmenté d'une centaine de pourcents. On est à 6 vols semaine, voire 7 vols semaine sur décembre, sur les points de demande.
Et du côté des tours opérateurs, à 15 jours de la réouverture de la destination, les demandes des clients sont déjà très fortes. C'est le constat que fait Geoffrey Gérard de Nouvelle Frontière.
On a eu des réservations qui ont été multipliées par 4 sur les 4 dernières semaines. C'est quelque chose qui est important puisqu'aujourd'hui, les réservations sur les États-Unis, ça représente à peu près 22% de nos ventes circuits. Alors, la destination la plus classique, ça va être l'Ouest américain avec un combiné Los Angeles, San Francisco en passant par Las Vegas.
Et chez le tour opérateur français, on observe que les réservations se font majoritairement pour des voyages qui auront lieu l'été prochain.
La Chine, elle, ne s'éveille pas au tourisme. Elle redoute une nouvelle vague de Covid pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le marathon de Pékin vient d'être reporté sine die après celui de Wuhan. Situation extrêmement confuse en ce moment au Soudan. Des soldats ont arrêté plusieurs membres du gouvernement civil. Un groupe à la tête du mouvement pro-démocratie a appelé la population à descendre dans la rue pour contrer un éventuel putsch. Et l'internet est désormais coupé.
Les sports, le football, Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, désabusé.
Oui, les Marseillais n'ont pu arracher que le nul face à leur meilleur ennemi, le PSG, hier. Mais surtout, les supporters n'ont pas pu s'empêcher de lancer des projectiles en tout genre, bouteilles, briquets, malgré son appel à l'exemplarité. Dimitri Payet.
Il y a eu encore des incidents. Voilà, le président avait adressé un message, moi-même. Donc voilà, malheureusement, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je pense, ce soir. Il y en a beaucoup qui étaient là pour faire la fête et ont été exemplaires, d'autres moins. Et ceux-là, je suis désolé, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils savent ce qu'on risque. On risque de perdre des points. Donc malheureusement, c'est assez triste et c'est désolant pour le football et pour nous-mêmes.
Dimitri Payet, et pourtant il n'y avait même pas de supporters du PSG hier soir au Vélodrome. Enfin, vous connaissez l'expression « avoir un caillou dans sa chaussure ». Eh bien, à Féchin, entre Douai et Cambrai dans le Nord, il s'agit d'un énorme caillou, un polissoir, une roche de 7 tonnes qui date du néolithique et qui servait à polir les outils en silex. Eh bien, cette roche complique la vie de cette commune de 1730 habitants, car l'objet minéral est classé, Théo Baucher.
Le maire de Féchin, Alain Wallard, ne sait plus quoi faire.
Le fameux polissoir, l'objet qui nous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis.
À cause de cette roche d'un mètre de haut sous verre, le chantier de la cantine scolaire juste en face est à l'arrêt, car les conditions des architectes de Bâtiments de France sont très exigeantes.
On consent à ce que vous démontiez le bâtiment, mais vous en refaites un au même endroit. C'est-à-dire en front à rue, c'est là le problème, en front à rue, avec deux niveaux comme les bâtiments que vous démolissez. Donc on a déjà au départ un surcoût de 600 000.
Et cela va plus loin, puisque tous les particuliers dans un rayon de 500 mètres, soit 80% de la surface de la commune, doivent se soumettre à cet examen patrimonial. Cathy tient le tabac presse.
Il y a quelques années de ça, j'ai une amie qui voulait faire une façade, mais si vous voulez, ils sont obligés de garder une couleur particulière. Vous ne pouvez pas mettre des fenêtres de certaines... C'est assez contraignant.
Et pour couronner le tout, impossible de déplacer le polissoir car le monument historique est considéré comme immeuble. Alain Wallard respecte le patrimoine, mais il reste stupéfait face à l'inflexibilité des ABF.
C'est l'avis d'architectes des Bâtiments de France qui ont passé peut-être 2 heures de leur vie dans ma commune. Alors moi, je suis là depuis 26 ans. On dit, les élus, finalement, ils n'ont aucune notion architecturale. C'est ça qu'on dit clairement.
Contacter les ABF indique simplement respecter la loi et œuvrer pour la mise en valeur du paysage.
Théo Baucher de France Bleu Nord.
Christelle Rebière, merci à vous.